Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
François, on va faire ça très court aujourd'hui pour l'intro de l'émission, puisque...
On a une émission spéciale de Peut contenir des infos. C'est sur le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Et ça commence
maintenant.
L'année 2023 marque le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un document qui a été adopté le 10 décembre 1948 à Paris, en France, par les États qui étaient alors membres de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, comme on la connaît. Et au cours de l'heure qui suit, on va recevoir des invités, on va écouter aussi certains extraits sonores d'époque à propos de cet événement historique, et on va parler justement de ce document-là, qui est sans doute, je dirais, le plus important de l'histoire de l'humanité, en tout cas en matière de droits humains.
À quoi ça sert, la Déclaration universelle des droits de l'homme? Pourquoi elle a été adoptée? Dans quel contexte? Aujourd'hui, on va vous raconter tout ça, ou presque, sur ce moment très précis de l'histoire. On parlera bien sûr de la Déclaration elle-même, mais aussi de quelle façon elle a marqué le monde, même jusqu'au Canada.
On va entendre, entre autres, Madame Yoyo Pasieka. Elle est chargée des communications à la Human Rights Measurement Initiative. Elle va venir nous expliquer de quelle façon cette organisation non gouvernementale qui œuvre à l'échelle mondiale s'y prend pour mesurer le respect des droits humains dans les différents pays du monde et surtout, à quoi ça sert, ces données-là?
On va recevoir aussi Monsieur Bruno Gélina Fauché. Il est professeur de droit à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, avec qui on va discuter de la Charte canadienne des droits et libertés vers la toute fin de l'émission. Parce qu'il faut bien savoir que même notre charte a été grandement inspirée de cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée en 1948.
Alors, on vous souhaite la bienvenue, évidemment, à cette émission spéciale qui est rendue possible, soit dit en passant, grâce à l'aimable collaboration et le soutien financier du ministère du patrimoine canadien qui nous a beaucoup aidés pour la concrétisation de ce projet-là qui marque, comme on le disait, les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue dans notre émission spéciale. François, on va commencer par le commencement, évidemment. D'abord, on va dire aux gens, c'est quoi la Déclaration universelle des droits de l'homme?
C'est un document qui établit les droits humains fondamentaux et les libertés fondamentales qui doivent être protégées pour tous les humains, sans distinction de race, de sexe, de nationalité, de couleur, de religion ou d'autres critères semblables. Pour bien saisir les raisons pour lesquelles on l'a rédigé et adopté, il faut d'abord comprendre le contexte de l'époque où a été préparé ce document-là, puisque les Nations Unies se sont consacrées à son élaboration entre 1946 et 1948.
Et à cette époque-là, ben c'est tout de même important de se mettre en contexte, comme on le disait, hein, de le mentionner. Le monde vient à peine de sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et au moment où on entame, justement, comme on le racontait, entre 46 et 48, la préparation de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, la guerre la plus sanglante de l'histoire vient tout juste de se terminer. C'est difficile d'établir le nombre précis de victimes qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais, grosso modo, on estime qu'entre 60 et 70 millions d'humains sont morts pendant ce conflit-là. Et ce qu'il y a de plus particulièrement choquant dans cette guerre, c'est, il y a évidemment eu des morts, là, on s'en doute parmi les soldats, c'est évident, mais ce sont pas des victimes militaires qu'on a surtout dénombrées. Et c'est ça qui est un peu particulier, parce qu'il y a eu jusqu'à 5 fois plus de civils que de militaires qui ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Écoutez, c'est souvent le cas là, dans les guerres. Il y a plus de civils qui périssent que de militaires, mais celle-ci, elle a été franchement dévastatrice. Combien? On dit jusqu'à 50 millions de civils ont été tués sur les 60 à 70 millions de morts pendant la guerre.
Pour mieux saisir l'ampleur du drame, Simon, c'est plus que 4 fois la population du Canada à l'époque. puisqu'on dénombrait environ 12 millions de Canadiens en 1945. 50 millions d'innocentes victimes, c'est plus que la population de la France en 1945, qui comptait alors une quarantaine de millions de citoyens.
Ouais, ben on comprend là les raisons pour lesquelles, évidemment, le monde a été bouleversé, même littéralement choqué, et on a donc voulu adopter un document dans lequel on allait essayer d'éviter la répétition de telles atrocités dans le futur. Donc, disons qu'au moment où on a justement rédigé et adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'humanité, là, parlons poliment, commençait à avoir pas mal de morts sur les bras et beaucoup de sang sur les mains.
Ce qui est aussi très préoccupant de la Seconde Guerre mondiale, c'est que non seulement des atrocités ont été commises contre les êtres humains eux-mêmes, mais aussi contre les institutions. Et ça aussi, on voulait éviter que ça se reproduise dans le futur quand on a pensé à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pensons aux enfants qui sont privés d'éducation pendant la guerre, aux artistes et aux musées dépouillés, bien sûr, de leurs œuvres, aux bâtiments patrimoniaux ciblés par les bombes. Des livres ont été brûlés, Simon, des musées pillés, des œuvres d'art volées ou vandalisées, des institutions académiques incendiées, les travaux de nombreux chercheurs anéantis et détournés, tout ça au profit de la guerre.
Et pour comprendre un peu mieux ce qui s'est passé justement pendant la Deuxième Guerre mondiale, à quel point le monde est consterné et pourquoi on a décidé de préparer une telle déclaration, on va écouter dans quelques instants l'extrait d'une allocution du professeur Henri Laugier. Qui est Henri Laugier? Il a été secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des affaires sociales. C'est un poste qu'il a occupé entre 1946 et 1951. Et dans cet extrait-là, on est tout juste à la fin de la guerre en 1945. Et c'est là, en l'écoutant, qu'on va peut-être un peu mieux comprendre pourquoi, non seulement on parle évidemment dans la Déclaration universelle des droits des individus, mais aussi les droits de leur institution.
Mesdames, Messieurs les délégués, lorsque les nazis prirent le pouvoir en Allemagne, un de leurs premiers gestes fut de brûler livres et bibliothèques. De monstrueux incendies consumèrent dans leurs flammes et réduisirent en cendres des volumes où se trouvait conservée la pensée de tous ceux dont l'imagination créatrice et l'esprit libre avaient construit dans un effort révolutionnaire continu la civilisation moderne. Lorsque, ayant déchaîné la Deuxième Guerre mondiale, ils occupèrent les pays de l'Europe, c'est sur les penseurs, sur les savants, sur les professeurs, sur les universités que s'acharnèrent d'abord ces nazis. Chacun des pays soumis au régime des vainqueurs temporaires peut dresser une liste douloureuse d'hommes et d'institutions martyrs, martyrs pour la cause sacrée de la pensée libre. Ainsi, dans leur agression comme dans leur victoire, les nazis témoignaient que les obstacles les plus redoutables à leur ambition d'hégémonie universelle, c'était l'indépendance de l'esprit, c'était ces valeurs humaines qui sont rassemblées autour du mot de liberté. C'était les richesses de l'éducation, de la science et de la culture conquises au cours des siècles par l'effort tenace et persévérant de l'humanité.
La Déclaration universelle des droits de l'homme n'était donc pas une simple réplique aux meurtres commis à l'endroit de millions de personnes. On souhaitait encadrer le respect de l'humain lui-même, mais aussi son droit à la science et au savoir, son droit à la culture, ainsi qu'à l'éducation notamment, ainsi qu'à la justice. C'est donc avec tout ça en tête qu'ils se sont réunis à Paris en décembre 1948, 58 États membres de l'ONU.
Ouais, c'est un peu spécial. 58 États membres de l'ONU, vous allez vous dire pourquoi si peu, hein? Surtout qu'on en dénombre aujourd'hui pas moins de 193 États membres de l'ONU.
Ben, c'est très contextuel. Faut comprendre qu'à l'époque, il y a pratiquement pas d'États indépendants en Afrique, très peu même d'États indépendants en Asie.
Donc, ce que je comprends, c'est que le colonialisme a une empreinte qui est encore très forte, là, qui se fait ressentir à plusieurs endroits du globe.
Effectivement, et ça, c'est intéressant aussi à savoir pour mieux comprendre l'idée derrière la rédaction de ce document. Évidemment, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été rédigée en réaction aux actes de barbarie qui ont révolté la conscience de l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale.
Bon, quand on parle, évidemment, d'atrocité, là, de barbarie, on peut penser penser à celles qui ont été commises par, évidemment, l'Allemagne nazie, les forces de l'Axe. On va nommer, entre autres, l'Italie de Benito Mussolini ou encore le Japon de l'empereur Hirohito. Mais il y a d'autres pays qui pouvaient aussi être pointés du doigt dans une certaine mesure pour leurs propres atrocités, hein, disons-le clairement. Et assez ironiquement, d'ailleurs, il y a même des pays qui avaient été eux-mêmes victimes du régime nazi qu'on aurait pu un petit peu pointer du doigt avec cette déclaration-là. Autrement dit, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était en quelque sorte une prise de conscience planétaire qu'on était en train de réaliser. La Deuxième Guerre mondiale, ça avait, à toute fin utile, été le prétexte parfait, disons-le ainsi, pour enfin accoucher d'un semblable document, mais aussi de beaucoup d'autres choses qui restaient à corriger.
Au moment où on a adopté le document en 1948, on a inscrit « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, et l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » Or, l'esclavage n'est pas encore aboli dans plusieurs pays du globe, Simon. Des États qui sont, dans bien des cas, des colonies ou des protectorats de certains pays alliés, dont la France et la Grande-Bretagne.
Ah, des pays alliés, comme tu disais, oui. Au Koweït, et ça c'est intéressant, au Koweït, ben intéressant, relativisons, là, mais c'est quand même stupéfiant d'apprendre ça. Au Koweït, un protectorat britannique au moment de l'adoption de la déclaration, l'esclavagisme est encore à ce moment-là en vigueur et ne sera aboli qu'en 1949. Le Qatar, un autre protectorat britannique, abolira l'esclavage seulement en 1952, tandis que le Niger, colonie française, ne l'abolira qu'en 1960. Et il faudra attendre en 1962 pour que ça survienne en Arabie Saoudite et au Yémen, et ainsi de suite dans d'autres pays par la suite.
Évidemment, le procès de Nuremberg s'était terminé en 1946. On avait clairement reconnu que les nazis s'étaient rendus coupables de crimes contre l'humanité. Mais c'était pas uniquement à cela qu'on voulait s'attaquer avec la déclaration. On pouvait effectivement y voir une riposte aux atrocités commises par les nazis et les forces de l'Axe pendant la guerre, sauf qu'il y avait des droits humains bafoués par d'autres pays du globe et qu'il fallait les faire respecter. Même chez des pays comme la Grande-Bretagne et la France notamment, qui s'étaient alliés afin de vaincre le nazisme. À travers ce fameux document, comme on le voit, le monde faisait donc une prise de conscience.
Voilà. Et après la pause, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se plonger littéralement dans ce document historique pour mieux saisir c'est quoi exactement la Déclaration universelle des droits de l'homme. On sait déjà qu'il s'agit évidemment d'un document qui établit les droits humains, les libertés protégées pour tous les êtres humains. Mais qu'est-ce qu'on y trouve précisément? Comment l'a-t-on préparé? Ben, c'est ce qu'on vous raconte dans un moment. Restez avec nous autres pour cette émission spéciale consacrée à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans la première partie de cette émission spéciale consacrée, on le rappelle, au 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on vous a dit c'était quoi la déclaration et surtout dans quel contexte on l'a adoptée, mais maintenant on va entrer dans les détails.
Au fond, la déclaration, c'est un ensemble de 30 droits et libertés inhérents à tous les humains. En théorie, personne ne peut les priver. Personne. Ce sont les bases de la liberté, de la justice et de la paix. On sait que dans la pratique, c'est pas mal moins évident. Mais c'est précisément dans le but de faire changer les choses que ce document-là a été préparé et adopté à l'époque. C'est un document développé afin d'intégrer des pays de tous les coins du monde avec leurs particularités à la fois religieuses, politiques et bien entendu culturelles. On dit que son pouvoir est celui des idées pour changer le monde, des idées pour encourager les humains à agir afin de garantir à chacun la liberté, l'égalité et la dignité humaine.
Ouais, et c'est intéressant d'ailleurs de constater qu'encore aujourd'hui, les droits qui ont été justement énoncés dans la déclaration, ça constitue la base de l'ensemble du droit international en matière de droits humains. Et partout à travers le monde, on se base sur cette fameuse déclaration universelle pour établir les principes généraux en matière de droits humains. Et c'est la même chose chez nous. On va l'entendre dans la dernière portion de l'émission. La déclaration universelle des droits de l'homme, elle a eu des échos jusque dans notre propre charte canadienne des droits et libertés, qui est d'ailleurs largement inspirée de ce document-là.
Ceci étant dit, il faut quand même savoir que le document qui a été adopté en 1948 n'a pas de valeur contraignante pour les États du monde. Ça, c'est important de le mentionner. Ce n'est qu'une déclaration. C'est pas un traité, c'est pas non plus une convention ou encore un pacte. Ça n'a pas de valeur réellement juridique. Elle n'a qu'une valeur déclarative sans réelle portée juridique, comme on le disait. Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme est quand même à ce point universelle qu'en 2009, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est vu décerner le record mondial du livre Guinness pour l'avoir traduite et diffusée dans plus de 300 langues et dialectes. Ce qui en fait à ce moment-là le document le plus traduit et donc le document qu'on peut dire le plus universel. Surtout que, depuis ce record, d'autres langues et d'autres dialectes se sont ajoutés, si bien qu'il existe aujourd'hui pas moins de 538 traductions du document.
Étonnant. Autre fait intéressant, saviez-vous que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est pas le premier document du genre? Non, on estime que le cylindre de Cyrus, qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ, est considéré comme la plus ancienne déclaration des droits de l'homme. C'est un artefact babylonien qui est constitué d'une espèce de cylindre en argile. On l'a découvert en 1879. Et là-dessus, on énonce un certain nombre de thèmes qui sont très semblables à l'actuelle Déclaration universelle des droits de l'homme. On parle de la liberté de culte, par exemple, l'abolition de l'esclavage. Et l'ONU en a d'ailleurs publié une traduction dans toutes les langues onusiennes en 1971. Il a été, ce document-là, rédigé plus précisément en 539 avant Jésus-Christ par Cyrus le Grand de l'Empire achéménide de Perse après la conquête de Babylone.
Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on trouve des mots qui sont vraiment très forts et qui ont une grande signification. Je me permets d'en citer. La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables.
Ouais, effectivement, il y a des mots là qui sont très forts là-dedans. Hein? Alors, dans ce document-là, on reconnaît que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et doués. Et ça, c'est important, c'est dit aussi, doués de raison et de conscience, les humains doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la Déclaration, sans distinction, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion, quelle que soit l'origine nationale, leur origine sociale, leur fortune de naissance ou toute autre situation.
Mais quels sont les droits qui sont couverts dans cette fameuse déclaration? On va d'abord vous les énoncer. Le droit d'être libre et égal. Le droit de ne pas être discriminé. Le droit à la vie. Le droit de ne pas être esclave. Le droit de n'être ni torturé ni traité de façon inhumaine. Le même droit aux lois. Le droit d'être égal devant la loi. Le droit à un traitement équitable devant les tribunaux. Le droit de ne pas être détenu injustement, le droit à un procès, le droit à l'innocence jusqu'à preuve du contraire, le droit à la vie privée, le droit à la liberté de circulation et de séjour, le droit à l'asile, le droit à la nationalité, le droit de se marier et de fonder une famille, le droit à la propriété, la liberté de conscience et de religion, la liberté d'opinion et d'expression, le droit à la liberté de réunion, le droit à la démocratie, le droit à la sécurité sociale, le droit au travail, le droit au repos et aux loisirs, le droit aux services sociaux, le droit à l'éducation, le droit à la culture et aux arts, le droit à la liberté dans le monde entier, le fait d'être soumis à l'observation de la loi, et finalement, les droits de la personne ne peuvent être enlevés. On le voit, c'est un document qui a été soigneusement préparé, puisque sur les 58 États qui étaient membres de l'ONU à l'époque, aucun s'est prononcé contre. Cela étant dit, c'est quand même intéressant de noter que malgré tous les soins apportés à la rédaction du document et qu'on ait voulu tenir compte des réalités d'un maximum de pays à travers le monde, 8 pays se sont tout de même abstenus de voter et 2 n'ont même pas pris part au vote.
Alors, parmi les pays abstentionnistes, on compte l'Afrique du Sud. Faut vous dire que à cette époque-là, on appliquait l'apartheid au moment où ça a été adopté en 1948. Ben, l'apartheid, là, je pense que pas mal de gens savent ce dont il s'agit. Hein. C'est une ségrégation raciale qui existait entre les blancs et les non-blancs. Et l'Arabie saoudite aussi s'est abstenue. Eux autres, ils contestaient l'égalité homme-femme. Et chez les autres abstentionnistes, on a la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, l'Union soviétique, l'Ukraine et la Biélorussie. Et enfin, il y a 2 États membres qui n'ont pas pris part au vote, c'est-à-dire le Yémen et le Honduras.
Maintenant, la grande question. Est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme est parfaite? Mm-hmm. Absolument pas. Plusieurs droits sont pas inclus dans cette déclaration adoptée en 1948. Entre autres, on trouve pas la notion du respect des minorités sexuelles, comme les LGBTQ. On ne voit pas ça en 1948.
Ouais, il n'y a pas non plus question là-dedans du droit à l'avortement, qui devrait en principe, en tout cas selon nos contemporains, être garanti dans un document semblable. Incidemment, si certains droits sont absents, d'autres sont simplement, disons, effleurés et incomplets. Les droits à la liberté de presse ou encore la protection des sources d'information des journalistes sont beaucoup moins développés dans ce document-là que dans d'autres documents du genre, comme c'est le cas, par exemple, dans la Convention européenne des droits de l'homme.
Le texte passe aussi sous silence la peine de mort. L'article 5 mentionne seulement que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais on ne traite pas explicitement de la peine de mort. En résumé, c'est sûr que le document n'est ni complet ni parfait, mais il demeure fondamental dans l'histoire de l'humanité. Et c'est surtout ce qu'on souligne cette année à travers ce 75e anniversaire dont on parle dans notre émission spéciale, en comprenant bien sûr que le document a été rédigé dans un autre contexte et que depuis son adoption, beaucoup de choses ont changé dans le monde.
Il y a une chose qui est intéressante à savoir dans ce document-là, c'est que, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais parmi les personnes qui ont contribué à la préparation de la déclaration par les Nations unies, on trouve entre autres un Canadien. En 1946, on a fixé le mandat principal d'une nouvelle commission des droits de l'homme, soit d'élaborer une charte internationale, disons, ce qui allait finalement devenir la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au début de 1947, à l'occasion de la première session, la Commission des droits de l'homme établissait un comité de rédaction. Initialement, ça ne comptait que 3 personnes, mais ce comité-là va être élargi dans un second temps avec, parmi ces personnes-là, un Canadien. Monsieur John Peters Humphrey, il y a donc dans la Déclaration universelle des droits de l'homme un petit peu du Canada dans la préparation et la rédaction du document. Qui sont ceux et celles qui ont finalement été appelés à rédiger ce document historique?
Il y a l'Américaine Eleanor Roosevelt, épouse de Franklin D. Roosevelt, le 32e président des États-Unis. Elle préside le comité de rédaction. Le Chinois P.C. Chang, un académicien, philosophe, diplomate et activiste des droits humains, en sera le vice-président. On confie à Émile Saint-Lô, un homme politique haïtien, le rôle de rapporteur du comité de rédaction. C'est à lui que va incomber la tâche de faire la lecture de la première version du document devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le Libanais Charles Malik sera quant à lui un rapporteur pour la Commission des droits de l'homme. Les autres membres seront l'Australien William Roy Hodgson, le Chilien Hernan Santa Cruz, le Français René Cassin, le Soviétique Alexandre Bogomolov, le Britannique Charles Dukes, ainsi que le Canadien, comme tu l'as mentionné Simon, John Peter Humphrey, alors directeur de la division des droits de l'homme des Nations unies. On va d'ailleurs entendre à ce moment-ci de notre émission spéciale un extrait sonore où Madame Eleanor Roosevelt elle-même fait la lecture d'un passage de ce document historique.
I am going to read you the Universal Declaration of Human Rights, the preamble. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.
Au retour de la pause, dans un instant, on poursuit notre émission spéciale 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On va recevoir Madame Yo-Yo Pasieka, chargée des communications à la Human Rights Measurement Initiative. Elle va nous expliquer comment, encore de nos jours, on se sert justement de ce document universel pour mesurer le respect des droits humains dans les différentes parties du monde. Et ça, même chez nous au Canada, on l'a dit tantôt. Et puis tout de suite après cette entrevue-là, dans le quatrième et dernier quart d'heure de cette émission spéciale, on va écouter M. Bruno Gélina Fauché, professeur de droit à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, qui va nous expliquer jusqu'à quel point, justement, la Charte canadienne des droits et libertés s'est inspirée de cette Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948. Il y a de nombreuses personnes qui estiment que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est certainement l'un des documents les plus importants de l'histoire de l'humanité ou, à tout le moins, le plus important en matière de droits humains. En 1948, quand a été adoptée la Déclaration, donc pour la première fois de l'histoire, on voyait des hommes et des femmes qui s'alliaient les uns aux autres dans l'espoir que les mêmes droits puissent s'appliquer à tout le monde sur la planète. Et ce document, il définit pas moins de 30 droits et libertés inhérents, disons, à tous les humains et dont personne ne peut, en théorie, disons-le, les priver. Donc, ça constitue les fondements de la liberté, la justice, la paix pour tous les êtres humains sur la surface du globe. Et pour mieux comprendre les répercussions d'un tel document sur la vie de milliards d'individus, évidemment sur la planète, on va tourner notre regard, si on veut, vers une organisation non gouvernementale qui accomplit un travail, disons-le, colossal, c'est-à-dire suivre et mesurer à l'échelle planétaire la performance des pays en matière de droits humains. Il s'agit de la Human Rights Measurement Initiative, une initiative de mesure des droits humains, dirions-nous en français, et nous allons recevoir pour l'occasion, à notre émission spéciale, Yo-Yo Pasieka, qui est chargée des communications, justement, à cette organisation, la Human Rights Measurement Initiative. Yo-Yo Pasieka, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici.
D'abord, expliquez-nous ce qu'est justement cette initiative de mesure des droits humains, qui l'a créée et dans quelles circonstances ça a été créé.
L'Initiative pour la mesure des droits humains, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale internationale, qui a pour but de mesurer le niveau de respect des droits humains dans tous les pays. Notre but, c'est de mesurer tous les droits qui sont établis dans le droit international, donc dans les traités, pour tous les pays. Ça fait beaucoup. Du coup, pour l'instant, on commence avec 13 droits fondamentaux. Et l'initiative a été fondée par 3 personnes, donc à la base Anne-Marie Brooke, qui était une économiste pour l'OCDE, qui cherchait des données où on pouvait comparer le respect des droits humains entre les pays, et qui a réalisé qu'en fait c'est très difficile de trouver de telles données. Et donc après, elle a rencontré en 2015, à une conférence aux États-Unis, les 2 autres cofondateurs de l'initiative, Dr. Suzanne Randolph, qui est prof et chercheuse à l'Université de Connecticut, qui a développé avec ses collègues la méthodologie qu'on utilise pour les droits économiques et sociaux, et Dr. Kate Chad Clay, qui est chercheur et professeur à l'Université de Géorgie aux États-Unis, qui lui a développé la méthodologie qu'on utilise pour mesurer les droits civils et politiques. Et donc en 2016, ils ont fondé l'initiative pour produire les données qui sont maintenant accessibles sur notre site, le Rights Tracker, où toutes les données sont en libre accès.
C'est dire que c'est de la nécessité, on dit que la nécessité est la mère de l'invention, donc il y avait un besoin justement d'avoir des données et de là la création de cette initiative. C'est bien ce qu'il faut comprendre.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'on trouve comme information dans cette base de données? Par exemple, les droits qui sont ciblés, les pays qui sont répertoriés, les groupes de personnes. À quoi a-t-on accès comme données quand on consulte ça?
Alors, sur notre site, on mesure 13 droits. On a 5 droits économiques et sociaux qui sont le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit au logement et le droit au travail. Et donc ces données-là, on les a pour environ 200 pays et territoires. Ensuite, on a aussi 8 droits civils et politiques qu'on mesure, donc 5 droits d'intégrité physique, c'est les droits de ne pas faire l'objet d'une arrestation arbitraire, de disparition forcée, de peine de mort, d'exécution extrajudiciaire et de torture et mauvais traitement. Et ensuite, on a trois droits d'autonomisation, qui sont les droits à la réunion et l'association, à l'opinion et l'expression, et à la participation au gouvernement. Et donc, ces droits civils et politiques, on les a pour environ une quarantaine de pays dans notre échantillon. Et on a aussi des données sur les personnes à risque. Donc, on produit des données sur, pour tous ces droits, sur quel groupe de personnes sont particulièrement à risque de ne pas jouir de leurs droits. Et donc là, on a une quarantaine de groupes pour lesquels on a des données, dont, par exemple, les femmes et les filles, les réfugiés, les demandeurs d'asile. Et finalement, on a aussi des projets un peu plus ciblés qu'on a. Donc, par exemple, là, en ce moment, on est en recherche de financement pour lancer un projet pour mesurer les droits des enfants.
Parlez-moi un peu des trucs sur lesquels on se base, si je peux dire, pour établir si un État, par exemple, performe plutôt bien dans tel domaine ou tel autre, ou si, au contraire, il y a place à l'amélioration. C'est quoi les critères de base, disons?
Donc, je vais vous expliquer un peu notre méthodologie. Donc, on a deux méthodologies distinctes qui sont complètement revues par des pairs et acceptées par les communautés universitaires. Donc, pour les droits économiques et sociaux, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des indicateurs qui proviennent de bases de données internationales, comme l'UNESCO et l'OMS. Ça va être, par exemple, le taux de scolarisation, l'accès à l'eau potable. Et c'est des indicateurs qui sont un peu des baromètres du niveau de respect de ces droits. Et on compare au niveau de revenu d'un pays, au niveau de ressources économiques. Parce que le revenu est important pour les droits économiques et sociaux. Dans les traités des droits économiques et sociaux, on parle de la réalisation progressive. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que chaque État doit parvenir de façon progressive à la pleine réalisation des droits dans la mesure des ressources disponibles. Donc ce qu'on sous-entend là, c'est que chaque pays doit faire de son mieux avec les ressources qu'il a, pour garantir et protéger ses droits et s'améliorer au fil du temps. Donc les pays qui ont des niveaux de ressources économiques différentes, ils vont avoir des enjeux complètement différents. Donc on peut pas juste comparer l'accès à l'eau au Canada et en Bolivie et dire oh, bah dis donc la Bolivie elle fait pas un très bon travail. Ils ont des enjeux complètement différents. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on calcule qu'est-ce qu'un pays peut réaliser à un niveau de revenu donné et on compare ça à ce que le pays réalise actuellement. Et donc, ça s'exprime en pourcentage où les 100%, c'est ce qu'on calcule être son potentiel. Ce qu'on calcule est complètement possible de réaliser pour un pays avec un certain niveau de revenu. Donc, par exemple, si je prends une des données qu'on a, pour le Canada, sur le droit à l'éducation, le Canada obtient un score de 90,4%. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le Canada est en train de réaliser 90,4% de ce qui est possible, de ce qu'il pourrait réaliser avec le niveau de ressources qu'il a actuellement. Et donc, ça nous permet de mesurer est-ce qu'un pays est en train de faire de son mieux avec les ressources disponibles pour protéger et garantir ses droits. Et on peut aussi voir s'il y a une amélioration progressive, s'il y a une évolution au fil du temps. Alors ça, c'est notre méthodologie pour les droits économiques et sociaux. Ensuite, on a aussi une méthodologie complètement différente pour les droits civils et politiques. Et donc, pour les droits civils et politiques, c'est complètement différent. Dans les traités internationaux, on ne prend pas en compte les niveaux de revenus. C'est pas une situation de réalisation progressive. On regarde est-ce qu'un pays est en train de respecter ses droits ou pas. Et donc là, il n'y a pas de base de données internationales sur lesquelles on peut s'appuyer. Il y a des témoignages dans chaque pays, mais ils sont souvent anecdotiques et ils montrent pas vraiment l'étendue de la situation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour obtenir des informations sur les droits civils et politiques ? On demande aux experts. On demande aux personnes qui travaillent sur le terrain, qui font du plaidoyer, du monitoring, de la défense des droits humains, parce que c'est ces personnes-là qui ont les meilleures informations sur la situation. Donc on envoie un sondage aux experts pour leur demander quel est le niveau de respect des droits humains dans leur pays. Ce sondage est développé de manière très précise à pouvoir transformer leurs réponses en données qui sont fiables et robustes. Et du coup, on produit un score sur 10 pour chaque pays. Et par exemple, si je prends un score en exemple, pour les États-Unis, pour ce qui s'agit du droit à l'opinion et à l'expression, les US reçoivent un score de 6,6 sur 10. Et donc, ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de place pour améliorer les États-Unis, pour protéger le droit à l'opinion et l'expression, étant donné qu'un 10 sur 10, c'est le respect total de ce droit, d'après les définitions qui sont établies dans le droit international.
En clair, c'est pas parce qu'un pays n'a pas un PIB très élevé qu'il est d'un pays, on va dire, émergent ou en situation, disons, moins favorable économiquement qu'un autre pays de l'OCDE. Pensons par exemple aux États-Unis ou au Canada. Ça veut pas dire que parce qu'un pays n'est pas nécessairement très riche, qu'il ne performe pas très bien dans certaines catégories ou même mieux dans certains cas que bien des pays industrialisés. C'est un peu ça qu'il faut comprendre.
Exactement. Et en fait, ce que ces données permettent de montrer, c'est un peu de casser les idées reçues qu'on a. On pense souvent que, comme vous dites, qu'un pays avec un niveau de revenu très élevé a une super performance. Et comme ce que nos données montrent, c'est que beaucoup des pays comme le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis sont en fait assez loin de ce qu'ils pourraient faire, étant donné qu'ils ont un niveau de ressources vraiment très important. Et après, si on regarde des pays qui ont des revenus, des niveaux de revenus très faibles, souvent ils ont des scores très élevés parce que le peu de ressources qu'ils ont, ils sont en train de les utiliser effectivement pour améliorer la qualité de vie des gens. Et donc, si on donne à ces pays plus de ressources, ils vont bien les utiliser pour améliorer la qualité de vie.
C'est un travail colossal, là, mine de rien, ce que vous faites. Qui sont les gens qui sont impliqués là, dans la cueillette de ces informations-là? J'imagine qu'ils doivent être disséminés un peu partout à travers la planète, ces personnes-là.
Oui, donc on a beaucoup de partenaires. On a une équipe opérationnelle qui s'occupe du financement et des communications. On a aussi une équipe de recherche qui font du coup toutes les analyses de données. Mais on a aussi tous les ambassadeurs et les experts qui répondent à notre sondage, sans qui notre travail serait complètement impossible. Les gens qui partagent leurs connaissances avec nous. Et donc là, c'est des défenseurs des droits humains, des gens qui travaillent sur le terrain, dans des ONG, des journalistes, des avocats, qui partagent leurs connaissances avec nous. Et après, il y a une équipe un peu élargie de conseillers, de collaborateurs et de personnes qui nous aident à développer des nouveaux projets et trouver des financements.
Yo-Yo Pasieka, vous êtes aux communications à cette organisation, la Human Rights Measurement Initiative. Vous la connaissez bien, mais peut-être que des gens qui ne connaissent pas cette organisation-là à travers le monde, à qui sont destinées, disons, toutes ces informations en matière de droits humains? Je présume que monsieur, madame, tout le monde peut y avoir accès, mais les, disons, les bénéficiaires, ceux qui sont en première ligne, qui sont les utilisateurs finaux là, de ces informations-là?
Beaucoup de personnes, donc comme vous l'avez dit, c'est tout le monde peut aller accéder à ces données, mais ils sont surtout utilisés pour faire du plaidoyer. Donc par exemple, on a souvent été cités dans des rapports des parties prenantes à l'EPU, l'examen périodique universel, qui est un des mécanismes de l'ONU pour mesurer l'évolution des droits humains dans les pays. On est aussi souvent cités dans les médias, donc tous les articles sur les droits humains, sur une situation de droits humains dans un certain pays. Il y a aussi beaucoup d'articles de recherche qui utilisent nos données. Et d'un point de vue politique aussi, de conseils politiques, les rapports, il y a eu un rapport l'année dernière sur la stratégie nationale du logement au Canada qui a utilisé nos ressources. Et après, on est aussi souvent recommandé comme ressource, par exemple, la Banque mondiale et l'UNESCO nous recommandent comme une ressource à utiliser pour les gens qui travaillent dans ce domaine. Mais ce qui est très utile, c'est que souvent quand les gouvernements ou les personnes disent que on ne peut pas améliorer un certain droit, une certaine situation parce qu'on n'a pas les ressources, c'est là qu'on peut utiliser nos données et dire, même avec les ressources que vous avez, vous pouvez quand même améliorer. Vous n'allez peut-être pas atteindre le meilleur score global, mais à votre niveau de ressources, vous pouvez quand même améliorer.
Si on prenait quelques exemples, disons Canada, États-Unis, hein, ce sont les deux endroits que nous autres, comme Nord-Américains, connaissons le plus. Moi, j'ai trouvé intéressant tout à l'heure quand on disait que c'est pas parce qu'un pays a moins de ressources qu'il peut pas mieux faire que d'autres pays en matière de certains droits. Quand on a fait une pré-entrevue, vous et moi, vous m'avez parlé, entre autres choses, des États-Unis où le respect, par exemple, en matière d'arrestation là ou de droits politiques, c'était pas particulièrement reluisant en la matière. Donnons quelques exemples comme ça, qui pourrait, disons, allumer des lumières dans la tête des gens, là.
Donc, pour le Canada, par exemple, on a des données sur les droits économiques et sociaux, qu'on appelle les droits de qualité de vie. Et si on regarde les scores qu'on a actuellement, pour le droit à l'éducation, l'alimentation et la santé, tous les scores du Canada sont entre 90 et 93%. Et donc ça, en fait, c'est un score moyen. On peut penser que 90%, c'est assez bien. Moi, si j'avais un 90% sur un examen, je serais assez contente. Mais en fait, c'est vraiment, on est en train de calculer un taux d'achèvement. Parce que 100%, c'est ce qu'on calcule est possible. Et donc, dans le droit international, les pays ont promis de faire le mieux possible. Et donc, tout ce qui est moins de 100%, c'est pas bon. Donc là, on est plutôt sur des scores moyens. Après, si on regarde le droit au travail, par exemple, le Canada obtient un score de 73,2%. Ça, c'est ce que nous, dans notre méthodologie, on classe un très mauvais score. C'est-à-dire que le Canada est en train de réaliser 73,2% de ce qu'il pourrait faire pour garantir le droit au travail pour tous. Et étant donné le niveau de revenu aussi important que le Canada, il peut faire vraiment beaucoup mieux pour protéger ce droit.
C'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont négligées, là. Je peux penser, par exemple, aux nouveaux arrivants, aux femmes, aux personnes probablement qui sont en situation de handicap. Donc, les Premières Nations, évidemment, il y a des endroits où il n'y a même pas l'eau potable. Donc, on voit avec ces indicateurs-là que même si au Canada, on performe peut-être mieux que dans bien d'autres pays, il reste place quand même à beaucoup d'améliorations à certains égards. C'est ce qu'il faut comprendre au final.
Exactement. Chaque pays a des enjeux complètement différents. Et donc, du coup, nous, on permet de regarder tant la situation de ce pays, qu'est-ce qui se passe.
Yo-Yo Pasieka, vous êtes chargée des communications à la Human Rights Measurement Initiative. Si on veut trouver des renseignements et consulter ces données-là, qu'est-ce qu'on peut visiter comme site Internet?
Notre site avec toutes les données s'appelle le Rights Tracker, RIGHTSTRACKER.org. Après, si vous cherchez Rights Tracker ou la Human Rights Measurement Initiative ou l'initiative pour la mesure des droits humains, on a aussi un site avec toutes les informations sur notre méthodologie, notre équipe et tout ça.
Vraiment intéressant. Yo-Yo Pasieka, qui est chargé des communications à la Human Rights Measurement Initiative, merci infiniment pour ces explications.
Merci beaucoup pour l'invitation.
À quelques reprises depuis le début de cette émission spéciale qui est consacrée au 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on vous a dit, entre autres choses, que la Charte canadienne des droits et libertés, elle a été largement, pour ainsi dire, inspirée de ce document historique qui a été adopté par l'ONU en 1948. Et de fait, quand on regarde à travers le monde, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs autres documents semblables en matière de droits humains qui ont été, eux aussi, largement inspirés de la Déclaration universelle de 1948. Et on a justement voulu discuter de la Charte des droits et libertés de chez nous, la nôtre au Canada, et pour le faire, eh bien, on reçoit M. Bruno Gélina Fauché. Il est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. M. Gélina Fauché, qui est spécialisé, entre autres choses, dans le droit international ainsi qu'en droit constitutionnel et administratif, pour ne nommer que ces champs de spécialisation-là. Et il est avec nous à l'émission aujourd'hui. On l'a au bout du fil. M. Gélina Fauché, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Gélina Fauché, merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, d'abord, moi, ce que j'ai le goût de vous demander, c'est quoi la Charte canadienne des droits et libertés et quelle est son importance dans la vie quotidienne des Canadiens?
Alors, cette importance-là, elle est fondamentale. Alors, pour bien comprendre la Charte, mais c'est assez simple. C'est un document qui énonce les droits et libertés fondamentales que chacun possède ici au Canada et protège ses droits fondamentaux, donc pensez au droit à la liberté de religion, à la liberté de parole, par exemple, protège ces droits-là contre des intrusions de l'État. Donc, ces droits-là que l'on retrouve dans la Charte, ben, ce sont les droits que, collectivement, au Canada, on estime vraiment essentiels au maintien d'une société libre et démocratique. Parce qu'ils sont aussi importants, la Charte a un impact dans plusieurs domaines de notre vie. Donc, l'un des domaines peut-être qui a commencé à être au début le plus important, c'est en matière criminelle. Donc, il y a des droits qu'on connaissait très bien, penser par exemple à la présomption d'innocence, des choses comme ça. Ben, même si on avait ces éléments-là dans notre histoire aujourd'hui, on a voulu les codifier et les mettre dans la Charte. Et ensuite, ben, on a d'autres éléments comme la liberté de parole, la liberté de religion. Et là, on peut penser que ça s'applique à toutes les lois ou toutes les actions du gouvernement. Ben, ces droits-là s'appliquent en matière d'éducation, de santé, de mesures gouvernementales, par exemple, la pension. Donc, ça s'applique vraiment à toute l'action du gouvernement. Mais je dois mentionner... Oui, allez-y.
Elle est à ce point importante, sauf erreur, qu'elle est inscrite dans la Constitution canadienne, non?
Oui, vous faites très bien de le préciser, j'aurais dû le dire. Donc, son importance vient vraiment que cette charte-là fait partie de la Constitution. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais ça veut dire que lorsque une loi ou une action du gouvernement qui est contraire à un des droits que l'on retrouve dans la Charte, ben cette loi-là ou cette action du gouvernement-là, elle est invalide. Donc, la Constitution du Canada, incluant la Charte, elle est suprême et elle rend toutes les autres lois ou toutes les autres actions du gouvernement invalides. Donc, c'est de là que découle son importance. C'est pas seulement qu'on doit vraiment s'engage politiquement à respecter les droits, c'est que s'ils violent les droits, ben ces actions-là deviennent invalides parce qu'ils sont contraires à la Constitution du Canada.
Monsieur Gélina Fauché, on lit et on entend là, à plein d'endroits que cette Charte canadienne des droits et libertés, elle a été, disons, largement inspirée de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais jusqu'à quel point elle a été inspirée, justement, de ce document qui a été adopté par l'ONU? Parlez-nous un petit peu, disons, des circonstances et de quelle façon cette Charte canadienne a été préparée.
Ben, c'est tout à fait vrai lorsqu'on dit que ça a été inspiré de la Déclaration. Et pour comprendre comment, ben il faut revenir peut-être un petit peu avant la Charte canadienne. Donc la Charte canadienne, c'est le document le plus important aujourd'hui en matière de protection des droits de la personne, mais c'est pas le premier qu'on a eu au Canada. En 1960, on a eu une loi qui s'appelait la Déclaration canadienne des droits, qui était un peu, si vous voulez, le prédécesseur de la Charte. Et cette déclaration-là, à l'époque, elle avait été proposé par le premier ministre John Diefenbaker. Et lorsqu'il avait proposé cette loi-là, il avait dit, ben voyez, on a la Déclaration universelle des droits de l'homme, on doit maintenant mettre en œuvre, donc adopter une loi au Canada qui met en œuvre, qui rend opérationnel les droits énoncés dans la Déclaration de l'ONU au Canada. Et c'est cette loi-là qui a été adoptée. Mais la Déclaration canadienne des droits avait certaines failles. Elle n'était pas aussi, bien rédigée que la Charte canadienne. Alors, on a continué à développer l'idée d'avoir un autre document. Et en 1968, Pierre Elliott Trudeau, donc dont plusieurs reconnaissent son nom, qui est, on dit, le père de la Charte, à l'époque était ministre de la Justice, en 1968, il publie un livre blanc. Donc, à l'époque, il dit, écoutez, il faudrait aller plus loin que la loi qu'on a adoptée, qui est basée sur la Déclaration, et adopter une Charte canadienne des droits et libertés. Mais encore une fois, à ce moment-là, l'idée d'adopter une charte, lorsqu'il la présente dans ce livre blanc-là, c'est basé sur ce qui se faisait à l'ONU avec non seulement la déclaration, mais à l'ONU, en plus, la déclaration elle-même avait donné lieu à l'adoption de deux traités internationaux, donc le pacte relatif aux droits civils et politiques, un premier traité, un deuxième traité, un pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Bref, le premier ministre Trudeau dit, regardez tout ce que l'ONU fait qui s'est basé sur la déclaration. Et donc, nous, on doit aller plus loin avec la charte. Et là, plusieurs comités parlementaux, notamment du Sénat et de la Chambre des communes, lorsqu'ils vont développer la charte, lorsqu'ils vont travailler pour la rédiger, vont faire référence spécifiquement aux articles de la déclaration. Alors, on peut voir jusqu'en 1982, lorsque la charte est adoptée, que tous les travaux qui mènent à son adoption font référence à la déclaration et vraiment visent à mettre en œuvre cette déclaration-là en droit canadien.
Monsieur Gélina Fauché, vous nous parliez justement de l'évolution qui s'est faite depuis, disons, les années 60 jusqu'à l'actuel, ou en fait la Charte canadienne des droits et libertés qui a été adoptée là en 1982. Mais est-ce qu'elle a évolué, cette charte-là, depuis 1982? Est-ce qu'il y a des exemples là, de cas depuis l'adoption qui ont eu, disons, un impact quant à, on va dire, l'interprétation?
Ben, tout à fait, et elle continue d'évoluer. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec une charte qui garantit des droits, c'est que c'est rédigé de façon très large. Donc, par exemple, chacun a droit à la liberté et la sécurité de sa personne. Mais c'est très large, et là, il faut déterminer, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire en pratique? Et plusieurs jugements qui ont interprété, qui nous ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, en pratique? Et je peux, certains exemples qui viennent en tête, qui ont frappé l'imaginaire, penser, par exemple, à l'aide médicale à mourir.
Oui.
Ben, c'était interdit au Canada, le code criminel, mais certains ont dit, le droit à la liberté de ma personne, ça inclut le droit de faire des choix comme ça, d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. Et la Cour suprême a dit, oui, on doit interpréter ce droit-là pour inclure un droit à l'aide médicale à mourir. Et donc, la Cour suprême a invalidé les dispositions qui interdisaient. Et aujourd'hui, dans notre société, on a accès au Canada à l'aide médicale à mourir parce que la charte a été interprétée de cette façon-là. Donc, c'est ce genre d'évolution qu'on a. Et les tribunaux ont toujours dit que l'interprétation de termes très généraux comme liberté de religion, de conscience, de parole, etc., mais ça doit être interprété à la lumière de l'évolution de la société. Donc, je peux pas aujourd'hui vous dire ben, qu'est-ce que ça va vouloir dire dans tous les cas, par exemple, la liberté de conscience ou le droit à la liberté, à la sécurité, parce que notre compréhension de ce que ça va vouloir dire va évoluer avec le temps, et la Cour nous dit toujours que cette constitution-là, elle est faite pour pour s'appliquer, s'ajuster, disons, au contexte social qui prévaut à chaque moment de son histoire.
Depuis le début de l'émission, on l'a énoncé pas à plusieurs reprises, mais il y a des gens qui l'ont dit d'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce n'est pas un document parfait, ça va de soi. Écoutez, depuis 1948, depuis l'adoption, il y a quand même beaucoup de choses qui sont produites là, dans notre société. C'est sûr, je présume que la Charte des droits et libertés, la nôtre au Canada, c'est pas un document parfait. Hein? Est-ce qu'il y a des choses qu'on trouve pas, par exemple, là-dedans et qui devraient l'être, ou d'autres qui y sont, puis que peut-être qu'ils auraient pas dû l'être, selon vous?
Ben oui, et ça c'est une excellente question parce que on a cette charte là et là c'est pas la fin. Il y a d'autres droits et libertés que l'on ne retrouve pas qui pourraient éventuellement être inclus, mais c'est un processus très difficile hein, de négocier, d'adopter ça parce que ça fait partie de la Constitution. Il faut que plusieurs provinces, le fédéral soient d'accord. Mais un exemple très concret et qui est avec la thématique dont on aborde ici, c'est que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle inclut beaucoup plus de droits que la Charte canadienne. Par exemple, les articles 22 à 27 de la Déclaration portent sur des droits qui sont pas très familiers au Canada. Le droit fondamental à l'éducation, à la santé, au travail, aux loisirs, à la culture, ce qu'on appelle généralement, droit intéressant, des droits économiques, sociaux et culturels. Donc, ces droits-là sont inclus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948. Mais au Canada, dans la protection de nos droits fondamentaux au niveau fédéral avec la Charte, on a décidé de ne pas intégrer ces droits-là. Pourquoi? Ben, c'est un choix politique essentiellement. T'sais, on faut se replacer aussi dans le contexte historique où ces droits-là étaient beaucoup associés au régime communiste. Donc, c'est beaucoup les pays ouais. communistes disaient, ben, chacun a un droit un travail qui lui amène un niveau de vie décent, la santé, l'éducation, etc. Et donc, c'était vu un peu avec de façon suspecte par certains pays. Aujourd'hui, on a une vision un peu différente de ces droits-là et plusieurs personnes militent pour que des droits sociaux, économiques et culturels soient inclus dans les protections fondamentales de la Charte canadienne des droits et libertés. Et je devrais dire que la Charte n'inclut pas ces droits-là, mais certaines provinces ont aussi des documents qui viennent garantir des droits et libertés. Et par exemple, le Québec a décidé lui-même de protéger ses droits économiques, sociaux et culturels dans sa Charte québécoise des droits et libertés. Donc, vous voyez qu'il y a toujours une évolution et la prochaine, disons, l'un des débats qui a lieu en ce moment, c'est de savoir est-ce que la Charte devrait inclure cette gamme de droits plus large, sociaux et économiques.
Une entrevue vraiment, mais vraiment très instructive. Monsieur Bruno Gélinas Fauché, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour nous expliquer un petit peu mieux ce qu'est la Charte canadienne des droits et libertés, mais aussi dans le cas de notre émission spéciale aujourd'hui, essayer de faire le rapprochement avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Gélinas Fauché.
Ça me fait plaisir.
En conclusion, s'il y a une chose, au moins, que la Seconde Guerre mondiale nous aura laissé comme héritage, disons, positif, c'est d'avoir accéléré en quelque sorte la préparation de cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme dont on vous a parlé aujourd'hui.
Absolument. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des hommes et des femmes se sont alliés dans l'espoir que les mêmes droits s'appliquent à tous, sans distinction de race, d'âge, de condition physique ou encore de sexe, sans égard à l'éducation, ni à l'endroit où on habite ou encore à notre statut social.
Au fond, en 1948, c'était la première fois de l'histoire que les États du globe lançaient tous ensemble un signal on ne peut plus clair et fort qu'il existe des droits inaliénables pour chaque être humain. Un document, comme on a pu l'entendre, dont l'usage est encore essentiel aujourd'hui, partout à l'échelle internationale.
Et c'est ainsi que se termine donc notre émission spéciale sur ce 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À la recherche, rédaction et réalisation, moi-même, Simon Forgue, je remercie mon collègue François Côté pour la co-animation, production qui a été assurée par l'Alliance des radios communautaires du Canada. Merci évidemment au ministère du patrimoine canadien pour l'appui financier ainsi qu'aux radios pour la diffusion de l'émission. À ceux et celles parmi vous qui sont de fidèles auditeurs de l'émission « Peut contenir des infos », mots. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une édition régulière. François et moi allons être là. Et aux autres parmi vous qui se sont joints à nous pour cette édition spéciale, on espère que vous l'aviez appréciée. À tous et à toutes, merci de votre attention. Au revoir.